Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM. C'est avec joie que je vous présente aujourd'hui la première édition de l'émission Regard sur le passé, animée par les filles du service du patrimoine de la mairie. Pendant le confinement, cette émission vous sera proposée tous les mardis et vendredis à 15h. Nous aborderons à chaque fois des thématiques différentes ayant trait à l'archéologie, à l'ethnologie ou à l'histoire de notre petit territoire. Vous êtes aujourd'hui avec Annabelle et la thématique de cette première édition est « Sur les traces des premiers habitants de l'Île-Dieu ». En effet, nous avons la chance que sur l'Île-Dieu, presque toutes les périodes historiques et préhistoriques soient représentées. Mais justement, quand est-ce que cette épopée a commencé? Quand les premiers îlets se sont installés ici? Et surtout, quelles traces ont-ils laissées dans notre paysage? Il y a quelques années, une découverte intéressante a été faite près du village de la Croix et plus précisément dans le chemin des Ormeaux. Là, un particulier a trouvé dans son jardin une pierre très très ancienne. Il s'agissait d'un biface, un silex taillé au bord très tranchant. Cet outil a été daté par un spécialiste qui a estimé qu'il avait été façonné pendant le paléolithique moyen et plus précisément entre 100 000 et 60 000 ans avant Jésus-Christ. Ce biface avait donc été abandonné là par un groupe humain de passage sur l'Île-Dieu. Mais attention, à cette époque, l'Île-Dieu n'était pas encore une île. Il y a 100 000 ans, nous étions en pleine époque glaciaire et il faisait beaucoup plus froid sur notre planète qu'aujourd'hui. Les glaciers des pôles étaient beaucoup plus étendus, à tel point que les glaces du pôle Nord descendaient jusque dans le sud de l'Angleterre. Le niveau des mers était donc beaucoup plus bas. Et pour trouver la mer, ce premier groupe humain qui est passé par chez nous aurait dû marcher 150 km vers l'ouest. Ces hommes et ces femmes étaient des chasseurs-cueilleurs nomades qui se déplaçaient sans cesse pour suivre les troupeaux d'animaux qu'ils chassaient. Ils construisaient donc des petits campements de fortune dans un environnement extrêmement froid et se déplaçaient très très souvent, généralement saison après saison. Ce biface est donc la plus ancienne trace de la présence de l'homme sur l'Île-Dieu. Puis le temps va passer et peu à peu, la planète va se réchauffer. Les glaciers vont commencer à fondre et le niveau des mers va commencer à remonter. Ce réchauffement climatique global va coïncider avec le début d'une nouvelle période, très bien représentée sur l'Île-Dieu. Il s'agit du Néolithique. En effet, des peuples venus de l'Est de l'Europe vont arriver dans nos régions en amenant avec eux de nouveaux savoir-faire. Ils maîtrisaient notamment très bien l'élevage et l'agriculture. Ils vont transmettre tous ces savoirs aux groupes qui vivaient alors dans nos régions. Véritable révolution dans l'histoire de l'humanité, le néolithique avec la maîtrise de l'élevage et de l'agriculture va amener les hommes à se sédentariser, c'est-à-dire qu'ils vont habiter un même endroit pendant toute leur vie. Au néolithique, aux environs de 7000 ans avant Jésus-Christ, l'Île-Dieu n'était pas encore une île, mais quasiment. En effet, on suppose que pour y accéder, les premiers néolithiques ont pu traverser à pied sec grâce au récif que vous connaissez bien, qui s'appelle le Pont Dieu. Ce Pont Dieu est aujourd'hui un récif sous-marin, mais à l'époque, comme le niveau des mers était un peu plus bas qu'aujourd'hui, eh bien il permettait de relier à pied sec le continent jusqu'à l'Île-Dieu. On estime donc que les premiers vrais habitants de l'île s'y sont installés à cette époque, donc au néolithique ancien, aux alentours de 7000 ans avant Jésus-Christ. Ces premiers agriculteurs sédentaires ont commencé à s'approprier ce territoire qu'est l'Île-Dieu et ils y ont laissé les premières traces que sont les pierres à cupules. Ces pierres à cupules, ce sont des pierres naturelles, mais qui sont gravées de cupules ou de coupelles, sorte de petites dépressions circulaires. Des pierres gravées sur l'Île-Dieu, on en retrouve un peu plus de 120, et elles sont réparties vraiment sur l'ensemble de l'île. Aujourd'hui, on n'est pas du tout capable de dire à quoi servaient ces pierres à cupules, quelle était la signification de ce petit creux qu'on faisait comme ça dans les pierres. Plusieurs hypothèses ont été émises, certains pensaient notamment au début du XXe siècle que ces premiers néolithiques représentaient dans la roche avec ces cupules les constellations des étoiles qu'ils pouvaient observer de nuit. D'autres ont estimé que c'était peut-être des petites coupelles faites, creusées pour pouvoir recevoir des offrandes, des offrandes pour un dieu ou une déesse quelconque. Et puis plus récemment, des chercheurs supposent que c'était tout simplement une manière pour ces premiers habitants de l'île de marquer ce territoire et de se l'approprier. Et puis le temps va passer encore un peu et on va arriver là au néolithique moyen. On est aux environs de 4000 ans avant Jésus-Christ et à cette époque, au néolithique moyen, l'île était enfin insularisée. C'est-à-dire que pour y accéder, le seul moyen, c'était de venir par bateau, par voie maritime. Et donc c'est à cette époque qu'on va connaître dans nos régions l'édification de menhirs et de dolmens. Sur l'île, il nous reste encore quelques témoignages de ces très beaux menhirs. On en a 5 au total, 2 petits qui se trouvent au Tabernaud, donc pas très loin des Broches, 1 à la Vrimonière. La Vrimonière se trouve entre Saint-Sauveur et la plage des Vieilles. Un tout petit qui se trouve encore aujourd'hui au Chiron-Lazare et qui surplombe comme ça la plage des Sabias. Et puis un très très bel exemplaire juste au-dessus de la plage des Sous que je vous encourage à aller voir quand le confinement sera terminé bien sûr. Et puis vous avez peut-être tous entendu parler d'un menhir très très important qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Ce menhir, c'était le menhir de Pierre-Levé. En fait, il se trouvait sur la colline de Pierre-Levé, donc qui se trouve là où il y a aujourd'hui le fort de Pierre-Levé. Et donc ce menhir, il mesurait 7,30 m de hauteur. Et donc quand il a été érigé comme ça tout en haut de cette colline, il devait être visible très clairement depuis la mer. Malheureusement, il a été détruit au cours du XXe siècle. Et aujourd'hui, on n'en a que des traces dans les archives. Et puis on a aussi sur l'île des dolmens. 5 dolmens aujourd'hui sont conservés, 3 sur la côte nord-ouest, le dolmen des Petits Fradets, le dolmen de la Planche à Puard ou encore l'allée couverte des Tabernaudes, et 2 sur la partie sud de l'île, le dolmen de la Guette et le dolmen des Landes qui tous deux se trouvent près du sémaphore. Et donc je vais m'attarder un petit peu maintenant sur justement ces dolmens de la côte nord-ouest. Tout d'abord le dolmen des Petits Fradets. Ce dolmen, on suppose que c'est l'un des plus anciens dolmens de l'île, hein, de par sa forme. En fait, il s'agit simplement d'un dolmen à couloir, c'est-à-dire que quand il a été construit, un couloir a été édifié et au bout de ce couloir, une chambre funéraire. Parce que oui, les dolmens, c'était pas du tout des maisons pour les petits fradets, c'était des tombes en fait, vraiment des sépultures collectives. Donc là-bas, au petit fradet, comme je vous disais, un couloir et au bout de ce couloir, une chambre funéraire. Et les morts, eh bien, on les enterrait collectivement. Hein. Les dolmens, c'était pas seulement pour une sépulture, mais plusieurs sépultures à la fois. Et bien sûr, par-dessus ce monument, on avait là un tumulus, c'est-à-dire au-dessus de l'architecture que l'on connaît aujourd'hui, se trouvait un tas de terre et de pierre qui rendait vraiment cette architecture extrêmement monumentale. Et puis, petit à petit, le temps va encore passer et on va voir au niveau des dolmens une régionalisation des architectures. C'est-à-dire qu'en fonction des régions de France et d'ailleurs, eh bien, on va voir des typologies d'architecture bien particulières se développer. Ici à l'Île-Dieu, on a un exemple très très parlant de cette régionalisation des architectures, c'est le dolmen de la Planche à Puard. Ce monument, eh bien, c'est un dolmen transepté, c'est-à-dire qu'on a encore de conserver aujourd'hui un couloir qui permettait d'accéder à 3 chambres funéraires, ce qui lui donnait une forme bien particulière, une forme de croix qu'on appelle plutôt un transept, un petit peu comme les transepts d'église, mais on est là bien avant le christianisme évidemment. Donc cette forme de croix, cette forme transeptée, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on la retrouve ailleurs, mais pas très loin d'ici. En fait, un des seuls endroits où on retrouve cette forme transeptée, c'est autour de l'embouchure de la Loire, ce qui indique que les habitants de l'Île-Dieu au néolithique moyen avaient des contacts sans doute très réguliers avec les habitants de l'embouchure de la Loire, puisqu'on retrouve exactement les mêmes types de dolmens autour de Saint-Nazaire ou encore de Pornic. Donc là, il y avait vraiment des échanges techniques entre les uns et les autres. Et pour aller encore plus loin, on a un archéologue anglais qui s'appelle Stuart Pigott, qui lui a remarqué que dans le sud de l'Angleterre, on retrouvait exactement le même type de dolmen transepté. Et selon lui, eh bien, on a fait voyager, si vous voulez, ce type d'architecture par voie maritime. Et donc, ces architectes seraient allés jusque dans le sud de l'Angleterre pour ramener avec eux ce savoir-faire de la construction des dolmens en forme de croix, des dolmens transeptés. Et justement, la planche à poire, c'est un des dolmens qui nous a appris le plus de choses, puisqu'il a été fouillé en fait en 1883 par Augustin Auger, qui a eu à l'époque la bonne idée d'écrire un rapport de fouille. Et grâce à ce rapport de fouille, on sait que dans ce monument, on y a trouvé énormément de choses. Notamment, on y a trouvé beaucoup de squelettes humains, ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre un peu comment les néolithiques enterraient leurs morts. Et donc, grâce à ces découvertes, on est capable de dire aujourd'hui que quand une personne décédait à cette époque-là, on amenait son corps à l'entrée du monument, et puis on revenait quelques temps plus tard, on grattait les os, on récupérait ces os que l'on disposait dans une des chambres funéraires. Ensuite, quand une chambre funéraire se retrouvait avec plein d'ossements au niveau du sol et qu'on avait besoin d'en ramener d'autres, eh bien, on mettait sur ces ossements des dallages de pierre et par-dessus de nouveaux ossements, et ainsi de suite. Donc là-bas, au dolmen de la planche à poire, on a retrouvé dans la chambre du fond, dans la chambre terminale, quatre épaisseurs d'ossements séparées par des dallages, ça faisait un peu comme un millefeuille. Et pour les chambres des côtés, les chambres latérales, eh bien là se trouvaient seulement trois épaisseurs d'ossements séparées par des dallages. Et évidemment, avec ces ossements, on avait aussi énormément de mobilier, c'est-à-dire d'objets qui avaient été déposés avec les défunts. Bien sûr, des outils comme des haches, des herminettes, mais aussi des armes comme par exemple des pointes de flèches ou autres. Et puis, on a retrouvé quelque chose de très très intéressant à l'époque, ce sont des poids de filets de pêche. C'est-à-dire que ces poids ressemblent, en fait, c'est des petits galets qu'on récupérait sur la plage, qu'on incisait de part en part et qui permettait de lester les filets de pêche, ce qui indique que 4000 ans avant Jésus-Christ, les habitants de l'époque, à l'île-Dieu, pêchaient déjà les poissons grâce à des filets. Et on a retrouvé aussi dans l'une des chambres funéraires des dents de cachalot. Alors bien sûr, on ne devait pas pêcher le cachalot au néolithique moyen, mais il a dû arriver qu'un cachalot vienne s'échouer sur une plage et qu'on prenne donc ses dents en guise sans doute d'amulette, et on les a comme ça enterrées avec les défunts. Et donc, il faut bien sûr penser que ce dolmen de la planche à poire était aussi à l'origine recouvert d'un tumulus, donc d'un gros amas de terre et de pierre, tout comme le dolmen des Petits Fradets. Et un peu plus haut, on a une autre architecture très intéressante, c'est la découverte des tabernodes. Là, on est vraiment à la fin du néolithique moyen avec un nouveau type d'architecture. Donc c'est là une allée couverte, c'est-à-dire qu'on a devant nous, si vous allez sur le site, et je vous encourage à aller voir ça après le confinement, on a une grande allée comme un grand couloir dans lequel on enterrait les morts de l'entrée jusqu'au fond. Donc là, vraiment, si vous voulez, une grande, grande chambre funéraire unique, sans couloir d'accès ni rien, juste une chambre funéraire très longue. Et en fait, cette allée couverte, c'est le seul exemplaire connu dans le sud de la Loire. On en trouve beaucoup au nord de la Loire, mais le seul exemplaire dans le sud de la Loire, c'est l'allée couverte des tabernodes. Ce monument a été partiellement restauré donc par Marcel Baudouin au début du XXe siècle. Et donc, pour le trouver, il faut que vous preniez la route des Broches. Et quelques mètres avant d'arriver à la fosse des Broches sur votre droite, vous avez un petit sentier qui vous permettra d'y accéder. Pour terminer, donc je tiens vraiment à vous faire comprendre que ces trois monuments, comme tous les dolmens de France et de Navarre, étaient recouverts d'un tumulus, c'est-à-dire d'une grosse masse de terre et de pierre. Ils étaient beaucoup plus monumentaux que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que l'ossature interne de ces monuments, puisque bien sûr, l'érosion a fait son œuvre, et puis les gens, bien sûr, qui habitent autour ou ailleurs sur l'île, sont venus récupérer les petites pierres de ce tumulus. Mais c'est clair que ces tumulus, ces édifices très monumentaux, monumentaux ont été construits là, sur la côte nord-ouest, pour être visibles depuis la mer. En fait, ils avaient vraiment un impact visuel pour les navigateurs qui passaient au large de l'île Dieu à l'époque. Et alors justement, au néolithique moyen, eh bien, à cette époque, on n'a pas retrouvé de traces d'habitation sur l'île Dieu. Parce que ce qui est quand même fou, c'est que les gens, pour habiter, construisaient des cabanes en bois. Donc ces cabanes, bien sûr, n'ont pas résisté jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, pour leur mort, ils faisaient des architectures en pierre qui ont traversé le temps et sont arrivées jusqu'à nous. Donc voilà pour nos premiers îlets, nos premiers habitants de l'île Dieu. Je vous donne à présent rendez-vous vendredi qui vient à 15h où Pauline vous parlera cette fois de la vie religieuse à l'île Dieu et plus précisément de l'église de Saint-Sauveur. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et surtout un bon courage pour ce confinement et prenez bien soin de vous. À très bientôt !